Midi 39 dans On en jase à Boulevard 102.1. C'est moins 4 degrés. C'est assez confortable à l'extérieur. Ça peut monter jusqu'à moins 1. Là où je dois vous informer, c'est la pluie verglaçante. Puis, je sais pas dans vos secteurs, mais il y a comme des grosses couches de glace.
Des grosses plaques.
Oui,
là.
Bien épaisses.
Vraiment.
Puis moi, je suis le genre de personne un peu épouvantable qui... J'étais allée chez le dentiste hier, simple histoire. Puis il y en avait une en avant chez mon dentiste. Puis là, je pense tout le temps aux personnes âgées. Puis il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de sable. Fait que j'arrive, puis je dis, ah, oh, juste pour vous informer, il y a une grosse plaque de glace. Je pense que je suis tannante, mais en même temps, je fais ça pour vos grands-parents ou vos parents, OK?
Oui, mais en même temps, je veux dire, c'est normal que tu le fasses. Ça. C'était dans l'entrée pour rentrer chez le dentiste.
Ben... Puis tu sais, t'as tout le temps un Gérard qui va se planter, puis qui va vouloir actionner le dentiste, puis dire, ou la bâtisse.
Ben,
ou,
de toute façon, s'il se blesse gravement, je.
Toi, c'est ton genre. Hein?
Ben non, j'ai.
Essayer de payer tes études avant même d'avoir les factures, c'est de même, hein?
Je vais aller viser des plaques de glace à l'Université Laval, là, pour.
pour te briser une jambe. Non, restez prudents quand même. Mais oui, effectivement, il y a un avertissement de pluie verglaçante pour Québec, les environs. Samedi, dimanche, nuages, pluie ou pluie verglaçante. On est autour de 5 à 6 degrés. Ça reste confortable. L'automne s'en vient. Puis c'est aussi une fin de semaine où on procède au changement de l'heure. Je préfère vous le redire. Quoique ça se peut que vous dormiez et vous ne vous en rendiez pas compte, que ce soit lundi qu'on s'en reparle.
Ça va être le lendemain matin, le matin du dimanche, qu'on va se rendre compte alors qu'on va avoir perdu une heure de sommeil.
Ouais, tu sais, la fin de semaine, c'est bien moins pire que la semaine. Mais lundi, tu le sens un peu.
Oui, exact.
Puis vivement les téléphones qui s'adaptent tout seuls. Mais quand t'as encore un cadran qui n'est pas de cette technologie-là, le four, le micro-ondes, tu fais le tour de la maison. En tout cas, on vous l'aura dit ici à Boulevard 102. On vous l'aura rappelé. Mathias, en nouvelle?
Oui, je commence par un couple de Lévis qui a été arrêté par les autorités pour négligence criminelle sur leur enfant, en fait, nouveau-né. Cet enfant-là qui a été retrouvé dans un état critique. C'est le 1er janvier 2025 que le SPVL, donc le service de police de la ville de Lévis, a été informé par un citoyen inquiétant de l'état d'un nourrisson présent dans le logement en question. Donc, les policiers, plusieurs mois plus tard, se sont rendus sur les lieux, là, après avoir complété leur enquête et tout, parce que c'est un long processus. Les deux parents qui ont donc été arrêtés, ils devront comparaître le 9 avril prochain sous différents chefs d'accusation. On parle d'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence de l'enfant, de négligence criminelle causant des lésions corporelles à l'enfant et d'entrave à des agents de la paix. Les demandeurs d'asile, y compris ceux qui n'ont pas de permis de travail présentement, auront accès aux services de garde à contribution réduite du Québec. C'est un dossier qui dure depuis maintenant 10 mois. 10 mois, ça a été envoyé durant la Cour suprême du Canada qui ont tranché contre le gouvernement du Québec actuel. En gros, c'est qu'en 2018, le gouvernement avait mis un règlement en place qui retirait l'accès aux demandeurs d'asile ayant un permis de travail ou non aux services de garde à contribution réduite. Par la suite, différentes cours ont invalidé ce règlement-là jusqu'à la Cour suprême, qui non seulement a invalidé ce règlement-là, mais a dit au gouvernement du Québec, les demandeurs d'asile avec un permis de travail auront droit au CPE à prix bas, mais également ceux sans permis de travail. Donc, le règlement, c'est comme devenu un couteau à double tranchant pour le gouvernement du Québec. La décision qui a été rendue justement à ce sujet-là aujourd'hui.
Si vous avez manqué le segment de Lambert Drainville et de Farnell Morissette, ce sera sur YouTube et également sur le site de Boulevard à reprendre. Toujours un bon débat entre quelqu'un ici de la politique et un autre du droit.
Je vous parle rapidement de la guerre en Iran parce qu'on a eu quelques développements aujourd'hui. Tout d'abord, Donald Trump, ce matin, qui a exigé une capitulation complète de l'Iran, puis j'exagère pas des mots là, pour reprendre son truth, parce que c'est comme ça qu'il fait de la politique, Donald Trump. Hein? Il a écrit sur ce réseau social, « Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une capitulation sans condition. » Et il dit par la suite qu'avec de nombreux alliés présents au Moyen-Orient, ben on mettra un nouveau gouvernement en place.
On en parle un petit peu plus tard, entre autres avec Éric Ouellette, là, à 12h50 environ, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes.
Et je termine avec la dernière nouvelle. On a appris aujourd'hui que le ministre des Finances, Éric Girard, déposera le prochain budget du gouvernement Legault pour l'année 2026-2027, le 18 mars.
18 mars, date à mettre au calendrier, du moins pour nous, commentateurs de l'actualité, mais aussi pour vous. Ah, ça va jouer dans vos poches. On va voir un peu les perspectives dans tout ça. Pour en parler, on va le faire avec quelqu'un qui se connaît vraiment. On s'en va rejoindre l'économiste principal chez Desjardins. Il s'appelle Sonny Scarfoni. Bonjour!
Bonjour, bon après-midi.
Merci de vous joindre à nous à l'émission. On est content d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous vulgariser. Bon, on n'a pas d'informations encore, mais un dépôt de budget, c'est toujours important. Cette fois-ci, c'est le ministre Girard qui va le déposer, donc pour la province. On peut s'attendre à quoi comme annonce de budget?
Bien, je pense que ce matin, le ministre a quand même tempéré les attentes en disant que ça n'allait pas être trop électoraliste. Bon, il y a tout le contexte aussi avec une nouvelle première ministre qui va rentrer en poste un mois plus tard. Puis bon, il y a fait consensus avec eux dans l'élaboration de ce document-là. Nous, côté les attentes, bon, la dernière mise à jour qu'on a eue, c'était au mois de novembre, la dernière mise à jour sur les entrées fiscales au gouvernement, etc., qui, somme toute, montrait que, bon, les entrées d'argent en soi surperformaient un petit peu les attentes, et les dépenses un petit peu également, surpassent un peu les attentes, mais bon, à peu près le 10 milliards de déficit excluant le fonds des générations, en date de novembre, on semblait être en voie de l'atteindre. Je dirais que depuis, cependant, bon, les chiffres de l'économie ont un peu déçu. En tout cas, les chiffres du Québec, là, tels que publiés la semaine passée par l'Institut de la statistique du Québec. Donc, c'est un certain ralentissement ici. Mais bon, nous, ce qu'on attend, c'est de voir c'est quoi les perspectives pour 2026-2027 et au-delà. Et bon, qu'est-ce que ça fait quelques années qu'on attend, c'est des précisions quant à comment est-ce que l'équilibre budgétaire va être rétabli comme il se doit par la loi pour 2029-2030. Il restait quelques milliards à identifier.
Des milliards, donc, c'est beaucoup. Des milliards, on s'entend qu'on parle pas de quelques milliers de dollars. Est-ce que c'est un exercice qui est assez périlleux pour un gouvernement?
Ben, dans l'ordre des choses, bon, on est dans une économie de plusieurs centaines de milliards de dollars, là. Donc, c'est pas nécessairement un chiffre tant impressionnant. Je dirais que c'est un petit peu plus les difficultés d'y arriver. Donc, du côté des revenus, bon, on a une économie au ralenti, en pleine guerre commerciale. Bon, on a la démographie qu'on a parlé beaucoup. Donc, on a un très faible taux de chômage malgré une économie au ralenti. Donc, c'est pas nécessairement juste du côté de la demande que ça se joue, mais de l'offre. Donc, bon, il y a peut-être pas tant de travailleurs que ça de disponible à venir payer des impôts. Donc, c'est le côté des revenus assez limité. Puis, bon, côté des dépenses, on sait l'insatisfaction des Québécois envers plusieurs des services. Puis, bon, les prévisions actuelles, bon, sur 3 ans du ministère des Finances, telles que révélées en novembre, bon, ça comptait sur un contrôle des dépenses quand même important en éducation, en santé. Donc, bon, revenus moins dépenses. Il n'y a pas tant de jeux. Il n'y a pas tant de jeux que ça pour aller chercher un 2,5 milliards de plus. Là. Donc, on joue dans les marges. Je pense que le ministre a quand même été prudent ce matin là, faire transparaître à quoi s'attendre le 8 mars. Là. Mais donc, pas une somme mirobilante, mais juste tant du côté des revenus que des dépenses. Là. Il y a un travail d'équilibriste quand même.
Important à faire. Puis justement, avec ces difficultés financières-là que vous venez de nommer, déficit qui continue de s'agrandir, du côté des contribuables moyens, de ce que je comprends, il ne faut pas nécessairement s'attendre à un congé de taxes, par exemple, du côté de l'essence ou encore de l'argent remis dans des poches directement.
Ben, on verra. On verra. Bon, le fédéral, bon, il a annoncé récemment un crédit additionnel pour l'épicerie. Est-ce qu'il m'emboîte-t-il pas? Bon, on est une année électorale, c'est peut-être la bonne chose à faire aussi dans les circonstances avec l'inflation alimentaire. Mais c'est sûr que bon, chaque dollar sortant additionnel pour rencontrer son objectif de 2029-2030, bon, ben faut expliquer de où est-ce que ça va venir. Où est-ce qu'on va réaliser des efficiences dans la livraison de services, les réduire ou aller chercher des revenus additionnels ailleurs.
Monsieur,
pas de mince tâche, non.
Monsieur Scarfoni, économiste principal chez Desjardins, il y a une question qu'on se posait, Mathias et moi, peut-être en terminant notre entretien, c'est qu'est-ce qui pourrait être fait qui ne serait pas si dommageable pour le portefeuille des Québécois? T'sais, vous travaillez, veux pas, avec la clientèle, vous entendez des gens autour de vous chaque jour parler des difficultés qu'ils rencontrent chaque jour pour boucler les fins de mois, tout ça. Qu'est-ce qui serait un allègement, selon vous, selon votre observation, ou qui ne ferait pas trop mal, en fait, aux gens du Québec dans un budget comme celui du budget Girard qui sera déposé le 18 mars prochain?
Ouf, ouais, ça c'est la question. Bon, il y a beaucoup d'opinions qui peuvent être émises là-dessus. Je pense, bon, dans une économie avec 4,5 millions de travailleurs, puis...
Je voulais pas vous prononcer. C'est-tu parce que vous pourriez vous faire taper sur les doigts? Parce qu'il y a quand même des choses, tu sais, au niveau des taxes, des impôts, encore au niveau fiscal qui pourraient être vues.